Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Radio Rosanna Paris.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
Un jour dans le monde, c'est maintenant l'escale reportage, la détente entre les deux Corées, vue par un artiste nord-coréen réfugié au sud. Reportage de Frédéric Ojardias. Sous les radars de l'actualité avec Virginie Pironon et donc entre autres la campagne présidentielle au Mexique et une étonnante proposition d'un des candidats pour lutter contre la délinquance. 18h55, l'édito Diplo, Claude Guibal, portrait d'un photoreporter égyptien emprisonné depuis 5 ans, coupable, selon la dictature, d'avoir fait son travail et distingué aujourd'hui par l'UNESCO. Mais tout de suite, les relations France-États-Unis à l'occasion de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington, à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi, la relation Macron-Trump. Comment ça fonctionne ?
Pierre Veille. Un jour dans le monde.
La visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis, il arrive à Washington dans moins d'une heure, temps fort de cette visite de 3 jours, entretien en tête-à-tête avec Donald Trump à la Maison-Blanche, conférence de presse commune, dîner d'État à la Maison-Blanche, discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès et rencontre avec les étudiants de l'université George Washington. Alors pour commenter cette visite, 2 invités ce soir à Washington, dans le bureau de notre correspondant permanent Grégory Phillips, un expert américain, Jeff Lightfoot, qui est chercheur associé à l'Atlantic Council, un des think tanks les plus réputés de la capitale fédérale. Bonsoir, monsieur Lightfoot.
Bonsoir, monsieur.
Et puis dans ce studio, à mes côtés, Denis Lacorne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris, spécialiste des États-Unis. Alors, on peut compter sur Donald Trump, il en fera des tonnes lors de cette visite pour montrer son amitié à l'égard d'Emmanuel Macron, poignée de main vigoureuse, étreinte chaleureuse, déclaration pleine d'emphase, cérémonie grandiose pour une visite d'État, galanterie sans doute obséquieuse vers Brigitte Macron. Tout cela, c'est de l'affichage pour la galerie pour dire « voyez notre proximité ». Mais il y a des désaccords entre ces deux hommes. Donald Trump appelle par son prénom Emmanuel. C'est un ami, un gars super, dit Trump, il aime bien ce Français, président au parcours atypique. Mais est-ce que ça veut dire qu'il peut se laisser convaincre, Trump, par Emmanuel Macron, convaincre de changer certains points de sa politique ? Jeff Lightfoot.
Bon, je crois que la relation entre ces deux chefs d'État est en raison de plusieurs facteurs. Dans sur le plan personnel, ils ont 2 hommes d'affaires. Emmanuel Macron parle anglais parfaitement bien, donc c'est très facile pour avoir ce dialogue. Il y a aussi des liens en commun entre ces deux hommes sur le plan politique. Ce sont 2 outsiders, comme vous avez dit, qui ont bousculé leur politique. Il y a des intérêts communs entre la France et les États-Unis pour lutter contre le terrorisme en Syrie et ailleurs. Et donc, il y a des points communs, mais comme vous avez dit, il y a des points de désaccord. La délégation française font tout ce que possible pour limiter les attentes de cette visite. Il faut noter aussi que après la visite d'Emmanuel Macron, il y aura la visite d'Angela Merkel qui va avoir les mêmes soucis que Monsieur Macron sur les échanges commerciaux et les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium européen dans le marché américain, et ils vont essayer à convaincre Monsieur Trump à rester dans l'accord nucléaire avec l'Iran. Mais je crois que sur l'accord avec l'Iran, la délégation française n'est pas très optimiste. Ils savent que Monsieur Trump déteste personnellement cet accord et que le nouveau conseiller pour la sécurité nationale, Monsieur Bolton, et le nouveau secrétaire d'État, Monsieur Pompeo, sont aussi des faucons qui détestent cet accord. Donc ça sera très difficile pour convaincre Monsieur Trump à changer son opinion sur cet accord-là.
Denis Lacorne, il y aura de belles images, des étreintes, des poignées de main chaleureuses, mais sur les dossiers importants du moment, l'Iran, les droits de douane, la Syrie, sur tous ces points, les désaccords sont profonds.
Oui, alors il faut voir d'abord... Macron a eu l'intelligence de faire un entretien avec Fox News, qui est une chaîne de télévision très conservatrice aux États-Unis, mais c'est la seule chaîne que regarde, ou l'une des rares que regarde Trump, et il est capable de passer 3 heures à regarder Fox News. Donc ça, c'était, en termes de pub, c'était assez habile, puisqu'il est certain d'être regardé par Macron, par Trump. Et alors, il a dit des choses intéressantes, nous sommes tous les deux des Mavericks, tous les deux des francs-tireurs ou des outsiders, ce qui est vrai d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux été élus de façon étonnante, surprenante. On n'anticipait pas leur victoire. Mais en même temps, à beaucoup d'égards, Macron est de l'anti-Trump. Macron, c'est quand même un produit de l'ENA, c'est un inspecteur des finances, et il vient du milieu méritocratique des élites françaises. Alors que Trump, c'est l'opposé. Il n'a jamais été élu, il n'a jamais eu de poste à Washington. Donc, à beaucoup d'égards, ce sont des opposés. Mais ce qu'il y a d'intéressant de neuf chez Macron, c'est que c'est à la fois un outsider qui est aussi, qui était un insider. Donc, il a joué sur les deux, puisqu'il était inspecteur du finance, puis il est allé dans le privé, dans la banque, puis il est revenu au gouvernement, puis il a construit de toutes pièces un nouveau parti politique. Donc il y a quelques similarités faibles, mais qui existent. Alors, en ce qui concerne l'Iran, vous disiez, c'est vrai que c'est un des sujets absolument clés, et ça va être difficile pour... La seule stratégie de Macron, dans le fond, c'est une stratégie d'influence. C'est ce qu'on appellerait, ce que j'appellerais la diplomatie douce. Alors que la diplomatie de rupture, qui est celle de Trump, est tout à fait l'opposé.
Mais vous pensez que Emmanuel Macron peut avoir de l'influence sur Donald Trump?
Il n'a rien à
perdre. On a quand même le sentiment que Donald Trump trouve Macron sympathique, il aime bien son parcours, qui lui rappelle un peu son parcours, mais pour le reste, il écoute, mais il ne changera rien.
Il n'a rien à perdre. Sur l'Iran, qu'est-ce qu'il a? Il va avoir face à lui Bolton et Pompeo, qui sont des faucons, donc ça sera très difficile de discuter avec eux. Mais il a des alliés aussi. Mattis, le ministre de la Défense, qui a des positions plutôt pro-européennes. Et puis Brian Hook, qui est le directeur du Policy Planning Staff, qui est un peu l'équivalent du Centre d'analyse et de prévision en France, que dirige Justin Weiss en France. C'est quelqu'un qui a réfléchi avec les diplomates français sur comment tâcher de ne pas lever les sanctions contre, de plutôt continuer la suspension des sanctions contre l'Iran, de renouveler donc l'accord de Vienne le 12 mai, en obtenant peut-être une vague concession symbolique qui ferait plaisir à Trump. Donc il y a quand même une négociation qui s'est préparée, qui s'est jouée entre diplomates, et il semble que Brian Hook, le directeur du Policy Planning Staff, a un rôle significatif là-dedans. Mais c'est vrai que c'est Trump et Pompeo et Bolton qui vont décider. En même temps, ce sont des gens qui ont des discours très durs, très violents, même très insultants dans le cas de Trump lorsqu'il parle de ses adversaires ou d'autres pays étrangers. Oui. Mais ce sont aussi des pragmatiques. Trump est capable de soudainement virer de bord, de dire bah oui, on va quand même s'entendre avec l'Iran parce que vaut mieux avoir un Iran et une Corée du Nord que deux Corées du Nord, chacune avec l'arme nucléaire à disposition.
Jeff Lightfoot à Washington, est-ce que l'image de la France a changé aux États-Unis avec l'élection d'Emmanuel Macron?
Je crois que l'image de la France était assez forte avant, mais il y avait un peu de méfiance dans la communauté des affaires par le mandat de François Hollande, qui a été vu comme un vieux socialiste. Et je crois que l'image a changé avec la communauté des affaires, mais il faut noter que la relation franco-américaine était très forte sous Hollande et Monsieur Obama. Il y avait des tensions sur les frappes contre la Syrie, par exemple, mais il y avait une bonne coopération sur des questions multilatérales comme l'Iran, comme le climat. Et donc, ce qu'on va voir ici, c'est qu'il y a un point de continuité dans les relations franco-américaines. Des relations qui ont beaucoup développé, beaucoup évolué depuis cette crise de 2003 sur la guerre en Irak. Et aujourd'hui, c'est les militaires américains comme le secrétaire Mattis, mais aussi les gens qui sont toujours dans l'uniforme qui ont beaucoup de respect pour la France, pour les forces armées françaises et pour le fardeau que la France partage au cadre de l'OTAN et dans la lutte contre le terrorisme.
Mais c'est fini l'image de la France qui a trahi en ne soutenant pas l'invasion de l'Irak en 2003 avec George W. Bush. On a oublié ça?
Je crois que c'est très très loin de la pensée à ce moment. On sait que les relations franco-américaines sont très bonnes et parfois très difficiles. C'est notre histoire commune. Mais pour l'instant, cette image de Surrender Monkey, c'est bel et bien disparu. Hein.
Et l'image d'Emmanuel Macron, sorte de Kennedy français, c'est ce qu'on a pu lire dans certains journaux américains. Vous trouvez ça sérieux?
Bon, on parle aussi du bromance, c'est pas très sérieux non plus, mais je crois qu'on est fasciné un peu par Monsieur Macron. Il est très intelligent, le fait qu'il peut parler en anglais directement à l'électorat américain, comme Monsieur Lacorne a dit, chez Fox News, c'est très important. Et on voit un peu la France, c'est un peu, il y a ce message de l'Élysée, France is back, la France est de retour. Et je crois que ce message réussit un peu ici. Et Monsieur Macron, c'est la vedette. Madame Merkel se voit un peu la vieille actualité, en fait.
Donald Trump, il respecte Emmanuel Macron, il l'apprécie, alors qu'il semble se désintéresser, qu'il méprise même Angela Merkel et qu'il n'apprécie pas du tout Theresa May. Comment expliquer cela, Denis Lacorne?
C'est-à-dire, Theresa May, la difficulté avec l'Angleterre, c'était, il y avait une relation spéciale entre les États-Unis et l'Angleterre qui n'a pas été vraiment renouvelée avec Theresa May. Pourquoi? Parce que Trump a fait l'erreur de courtiser l'ancien patron de UKIP, qui est un parti très très à droite en Angleterre, assez proche du Front National et qui était pour le Brexit. Donc il a un peu choisi le mauvais cheval. Pour un peu atténuer le poids de ce parti d'extrême droite en Angleterre, il y a eu le fameux référendum. Mais le fameux référendum s'est mal passé, c'est pas passé comme prévu par Theresa May. Donc là, il y a un problème. Merkel n'apprécie pas du tout le langage de Trump, sa xénophobie, son islamophobie, etc. Le mur qu'on construit. Donc pour elle, c'est monstrueux. C'est quelqu'un qui détruit, qui piétine les valeurs démocratiques. Et dans le fond, dans ce vide, il y a Macron. Et ce qui est intéressant, c'est un titre du journal Politico qui dit « Comment Macron est devenu maintenant le nouveau leader du monde libre ?» C'est un article qui vient de sortir aux États-Unis où, un peu par défaut, puisqu'il est le seul à défendre les valeurs démocratiques contre un Trump qui les piétine et contre la Hongrie ou la Pologne qui sont des régimes qui deviennent plutôt autoritaires. Donc, un peu par défaut... C'est pour ça qu'on peut dire que Macron est le nouveau Kennedy. Oui, s'il incarne les valeurs d'un monde libéral et démocratique.
Alors, premier temps fort de cette visite, un moment glamour. Ce soir, les couples Trump et Macron vont dîner à Mount Vernon, au sud de la capitale fédérale. Lieu historique, magnifique, qui accueille chaque année des centaines de milliers de visiteurs. C'était la résidence de George Washington, le premier président américain. Grégory Phillips, notre correspondant aux États-Unis, s'est rendu sur place. Visite avec lui, avec Grégory.
Ici, la chambre où le marquis de Lafayette séjournait quand il venait à Mount Vernon. Là, au rez-de-chaussée, dans un cadre, la clé de la Bastille, offerte par le même Lafayette au premier président des États-Unis, juste après la Révolution française. Mount Vernon, qui fut donc la propriété de George Washington, est aussi un haut lieu de l'amitié franco-américaine. Douglas Bradburn est le directeur du site.
C'est une relation très ancienne et très profonde entre la République française et les États-Unis. Ça remonte à nos origines. Et donc on a reçu ici de très nombreux visiteurs français à travers l'histoire. Le maréchal Foch est venu à la fin de la Première Guerre mondiale. Charles de Gaulle était là un mois avant la libération de Paris en 1944. C'est vraiment un endroit très spécial qui célèbre notre amitié. On est vraiment ravis d'accueillir ici le président français.
C'est donc ici que les deux couples présidentiels dîneront ce soir, si tout va bien, sur la terrasse. La vue sur le Potomac est magnifique. Elle n'a pas changé depuis la fin du XVIIIe siècle.
C'est vraiment très beau, cette vue sur la rivière, cette forêt du Maryland. Et notez bien que ce dîner est censé être la réponse au dîner que le couple Trump a passé avec le couple présidentiel français à la Tour Eiffel. Donc ce soir, l'idée, c'est de leur offrir en retour une formidable soirée. Il y a déjà eu un dîner d'État ici, mais sur les pelouses, la première dame Jackie Kennedy et son époux avaient accueilli le premier président du Pakistan, Khan, qu'à l'époque on comparait un peu à George Washington parce qu'il était le premier président d'une colonie devenue indépendante. Mais c'était un grand banquet avec des tentes. Là, un dîner à quatre sur la terrasse avec deux chefs d'État, c'est du jamais vu, c'est une première.
C'est le cuisinier de la Maison Blanche qui officiera ce soir et autour de la table, ils ne seront que quatre, Brigitte et Emmanuel Macron, Melania et Donald Trump. Le grand dîner d'État aura lieu demain soir, mardi, à la Maison Blanche, cette fois avec 130 convives.
Voilà, reportage de Grégory Phillips. Denis Lacorne, quels sont les présidents français et américains qui se sont le mieux entendus et ceux qui ne communiquaient pas bien ?
C'est compliqué, parce que prenez De Gaulle. De Gaulle a été considéré comme anti-américain par beaucoup d'Américains, et en même temps, dès qu'il y avait des crises sérieuses comme la crise des missiles de Cuba, De Gaulle était à fond derrière les Américains. Donc c'est compliqué. Et Macron entre un peu dans le jeu qu'on a qualifié de gaulo-mitterrandien, c'est-à-dire une France qui parfois sera en désaccord complet avec les États-Unis, mais qui reste un allié fondamental parce que c'est notre allié indispensable depuis les origines. Et les deux lieux symboliques pour ce type de rencontre, c'est soit la maison du président Washington, soit la maison de Jefferson à Monticello. Hollande, lui, avait rencontré Obama à Monticello, qui est un autre haut lieu historique de la vieille amitié franco-américaine. Et alors, ce qui est intéressant, c'est les symboles, on n'a peut-être pas assez parlé. C'est le centenaire cette année de l'armistice de 18. C'est aussi le centenaire de la première intervention américaine aux États-Unis, au Bois Bello, puisque c'est au Bois Bello en 18 qu'il y a eu 2000 morts, l'Américain. Et le symbole choisi par Macron, c'est un petit arbre, un pouce de chêne du Bois Bello, au sud de Château-Thierry, qui la porte comme symbole de cette amitié franco-américaine.
Jeff Lightfoot à Washington, Donald Trump a-t-il vraiment changé d'avis sur la France? Parce qu'on se souvient de ses propos ces deux dernières années. Paris n'est plus Paris, il y a des endroits de la capitale qui sont radicalisés, je cite Trump. J'ai été élu pour représenter Pittsburgh et pas Paris. Et puis après l'attentat au Bataclan, personne n'était armé, a dit Trump. Les victimes ont été tuées une par une. Paris a les lois anti-armes les plus strictes du monde. Ces propos, c'est terminé avec Trump ?
Je crois que Donald Trump maintenant reconnaît que la France est le premier partenaire, peut-être militaire, avec les États-Unis pour lutter contre le terrorisme. Je crois qu'il était probablement moins renseigné auparavant. Il a toujours des tendances un peu très dures contre l'islamisme radical. J'imagine qu'il croit toujours qu'il y a des zones interdites pour les Français dans les banlieues parisiennes, mais il reconnaît la France comme un premier partenaire contre le terrorisme. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les conseillers autour du président Trump ne peuvent pas le gérer tout seul. Il a ses propres convictions et on voit une deuxième phase, on dit ici comme la saison 2 de l'émission Donald Trump, que nous sommes aujourd'hui dans une phase beaucoup plus America First, Amérique d'abord, qu'auparavant.
On l'a dit, il y a de nombreux désaccords entre Donald Trump et Emmanuel Macron. L'accord sur l'Iran, l'accord de Paris sur le climat, les droits de douane sur les produits européens, sur la Syrie, puisque sur la Syrie, Donald Trump veut quitter ce pays, ce que ne souhaite pas Emmanuel Macron. Denis, l'accord dans sa relation avec Donald Trump, Emmanuel Macron, en fait, il n'est pas dupe. Il connaît les tweets de Trump, souvent dignes d'un ado de 15 ans. Il connaît ses ennuis intérieurs, mais il fait avec. Il ne juge pas.
Oui, et là c'est bon, il fait preuve de réalisme. Je crois que c'est habile de la part de Macron, parce je crois que Macron a compris, contrairement à un certain nombre de leaders de la gauche française et de la gauche américaine, il a compris que Trump est là pour durer. C'est-à-dire qu'on a se fait quelquefois la douce illusion que Trump va disparaître, va pas terminer son premier mandat parce qu'il est incorrigible, c'est l'homme du chaos et l'homme de tous les problèmes. Et il sera mis en accusation par le Congrès. Bon, c'est possible qu'il y ait une mise en accusation devant la Chambre des représentants si les démocrates l'emportent aux élections de mi-parcours en 2018, mais ça fera pas partir Trump. La mise en accusation, c'est la première étape pour la destitution. Ensuite, il faut que le Sénat, que les deux tiers des sénateurs votent la destitution. Et cet événement est pratiquement impossible. Donc, quoi qu'il arrive, même si ça se passe mal pour Trump avec une mise en accusation devant la Chambre des représentants, il est là au moins jusqu'en 2020. Et c'est pas impossible qu'il soit réélu en 2020. Donc, je crois que Macron joue sur le long terme. Lui a bien compris que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, il est là pour durer et autant faire avec.
Jeff Lightfoot, on a vu ces images de Donald Trump et Emmanuel Macron en juillet dernier à la Tour Eiffel aux Invalides. Et là, on peut compter à nouveau sur des images très chaleureuses lors de cette visite. Est-ce que c'est du jamais vu, par exemple, depuis la fameuse photo de Valéry Giscard d'Estaing et Gerald Ford au bord d'une piscine en 1974, je crois ?
Oui, je crois qu'il y aura beaucoup de photos, beaucoup de poignées de main, des affiches d'amitié entre ces deux hommes. Cette visite d'État en juillet dernier à Paris a beaucoup marqué Donald Trump. Il était très impressionné par ce défilé militaire qui l'a inspiré à vouloir son propre défilé militaire ici en novembre. Et je crois qu'il faut rappeler aussi que Donald Trump, c'est pas seulement un chef d'État, c'est aussi un homme d'affaires et quelqu'un, le propriétaire d'une des plus grandes marques des hôtels et des appartements aux États-Unis. Donc c'est un hospitalier. Il va vouloir montrer que les États-Unis sont aussi capables à recevoir un chef d'État que la France.
Denis Lacorne, dernier mot pour vous. Vous espérez des résultats concrets en dehors de très belles images et du rappel des valeurs fondamentales que nous partageons avec les Américains?
C'est la stratégie d'influence. Macron peut espérer modérer les impulsions les plus guerrières de Trump, peut espérer le modérer sur la question de l'Iran, je crois que c'est très important. Mais c'est tout. Le problème de Trump, c'est qu'il n'est pas fiable, il tourne comme une girouette, et en général, celui qui a de l'influence sur lui, c'est le dernier qui lui a parlé. Et le 12 mai, ça n'est pas après-demain, ça prendra un peu plus de temps. Donc la stratégie d'influence, c'est la bonne. On n'a rien à perdre, mais en même temps, le succès n'est pas garanti.
Merci à nos invités. Denis Lacorne, directeur de recherche au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris, spécialiste des États-Unis, et puis à Washington, aux côtés de notre correspondant Grégory Phillips. Jeff Lightfoot, qui est un chercheur associé à l'Atlantic Council, un think tank à Washington. Merci.
France Inter, Pierre Veil. Un jour dans le monde.
Au programme de la prochaine demi-heure, il y aura Virginie Pironon sous les radars de l'actualité, au Mexique, en Afghanistan, aux États-Unis, avec un jeune homme qui aime beaucoup survivre, on vous en parlera. Escale reportage en Corée du Sud, à Séoul, avec un artiste nord-coréen réfugié à Séoul. Et puis Claude Guibal, l'édito Diplo, vers 18h55. Bonsoir Claude.
Bonsoir Pierre.
L'Égypte.
L'Égypte, ce soir au programme, on va parler démocratie avec l'annonce du prix mondial de la liberté de la presse de l'UNESCO, qui va être décerné cette année au photoreporter égyptien Shao Kahn, qui encourt la peine de mort.
À tout à l'heure, Claude. Mais tout de suite, Jamie Cullum, un extrait de son troisième album en 2003, I Get a Kick Out of You. Il aime le jazz et le restitue avec son piano.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? I'd get a kick out of you. Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. That I'd get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me that you obviously do not adore me. I get no kick in a plane. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. That I'd get a kick out of you. get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me to ripply too. That I get a kick out of you. Oh, I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me that you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. I get a kick, she gives me a boot. I get a kick out of you. Da 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 da.
Jamie Cullum, il est en tournée dans les prochaines semaines. Le 13 juillet prochain à Montreux en Suisse et le 29 juillet, on a retrouvé ses dates sur internet, il sera à Narbonne, ne le ratez pas, parce qu'au piano, c'est très impressionnant. Power Hit Radio. Magic FM.
Tehát rá nevetülök. This interview please for 60 minutes.
Sous les radars de l'actualité avec Virginie Pironon. Virginie, on commence avec le Mexique et la proposition choc d'un candidat à la présidentielle.
7700 assassinats en 3 mois dans le pays, des comptes macabres. En cause, le trafic de drogue. Le pays est gangrené par la violence et la corruption. Hier soir, le sujet s'est invité au cœur du premier débat entre les candidats à l'élection présidentielle, élection qui doit avoir lieu le 1er juillet. Le candidat de gauche, grand favori des sondages, Andrés Manuel López Obrador, est la cible des critiques pour avoir proposé une amnistie à certains délinquants. Il s'est fait vilipender par ses 4 rivaux. Et l'un d'entre eux, candidat indépendant, Rémy Rodríguez Calderón, surnommé El Bronco, a eu cette drôle de proposition pour faire baisser, alors non pas le trafic de drogue, mais au moins la petite délinquance. Écoutez.
Tenemos que mocharle la mano al que robe. Así, de simple.
Il propose tout simplement de couper la main des voleurs et déposera une initiative en ce sens bientôt au Congrès. Couper la main des voleurs dans les services publics, les pays qui sont sortis de cette corruption l'ont fait. La seule façon de s'en débarrasser, dit-il, c'est de faire des exemples. Proposition pour le moins radicale qui rappelle ni plus ni moins la charia. Aussitôt détournée sur les réseaux sociaux, caricatures, montages, les Mexicains préfèrent s'en amuser.
Virginie, on va maintenant avec vous en Afghanistan, dans les rues de Kaboul.
Kaboul encore sous le choc après un nouvel attentat suicide hier revendiqué par l'État islamique, attaque qui a fait au moins 57 morts. Mais ce n'est pas de ça, Pierre, dont nous allons parler. Nous allons faire un bond en arrière. Ce que vous entendez derrière nous, ce sont les rues de Kaboul en 1975, soit avant le début de la guerre. L'intervention des soviétiques, on y voit des rues animées, des commerces, marchands de tapis, boulangers, des étals de vêtements, de fruits et même des touristes et visiteurs beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Parmi ces rues, l'une d'entre elles est symbolique, Chicken Street, la rue où paraît-il on peut tout trouver sauf du poulet. Et c'est le New York Times qui nous y emmène. There are no chicken on Chicken Street, c'est le titre, et il n'y a plus non plus d'acheteurs. Autrefois dans ce bazar, se croisaient diplomates étrangers, hommes d'affaires, membres de la famille royale, puis plus tard les touristes sont arrivés à la recherche d'exotisme, déambulant dans la petite rue étroite aux multiples arômes, marchandant pour les lapis lazuli au bleu profond, les tapis qui ont fait la renommée du pays. Et aujourd'hui, presque plus rien. Un acheteur dans une échoppe, c'est beaucoup, écrit le journaliste Rod Nordland. Deux, c'est une foule. En cause évidemment, la sécurité et la corruption. On y revient. Témoignage d'un joaillier avec son frère. Il rachète récemment un des bâtiments de Chicken Street pour $500,000. Menace, il décrit la sensation du pistolet sur sa tempe. Son frère se fait kidnapper, oreilles arrachées. Et lorsque les ravisseurs viennent chercher leur rançon, ils sont en uniforme. Ce sont des agents de police.
On termine, Virginie Pironon, avec l'histoire de ce jeune Américain miraculé.
Il s'appelle Dylan McWilliams. Il a 20 ans et en moins de 4 ans, Pierre, il a été mordu par un serpent. Il s'est réveillé un matin la tête dans la gueule d'un ours. Et dernier épisode en date, jeudi dernier, il a cru perdre une jambe dans la mâchoire d'un requin à Hawaï alors qu'il faisait du bodyboard. Il s'en tire avec 7 points de suture. L'année dernière, pour l'ours, c'était 9. Une mésaventure qu'il a racontée pour les médias du monde entier, comme ici sur CNN. Le journaliste lui demande comment il se sent.
Oh, pretty good, pretty lucky.
Oh, très bien, j'ai eu de la chance. Je me suis réveillée, je pensais que je rêvais, que je faisais un cauchemar. Mais quand je me suis réveillée, j'avais très mal. Il décrit alors le souffle de l'ours qui a planté ses crocs dans son crâne et qu'il a ensuite tiré sur 20 pieds, ça fait 6 mètres quand même. Il a essayé de s'en défaire et lui a enfoncé ses doigts dans l'œil. Et le bruit sourd qu'il a entendu à ce moment-là, il explique, c'était le bruit des crocs qui s'enfonçaient dans son crâne.
Scraping against my skull.
Dylan McWilliams conclut dans une interview au journal Honolulu Advertiser hier. Mes parents sont reconnaissants que je sois toujours en vie. Bah tiens, oui, c'est quoi son métier déjà? Ah oui, il est instructeur en technique de survie.
Ah bah là, on comprend maintenant sa force tranquille. Sous les radars de l'actualité, Virginie Pironon, à demain, Virginie.
À demain.
Le 18-20. Pierre Veil sur France Inter.
Et voici l'escale, reportage, la péninsule coréenne où la détente est à l'ordre du jour entre le nord et le sud. Délégations communes lors des JO d'hiver, des concerts d'artistes sud-coréens au nord le mois dernier, une ligne rouge, ligne téléphonique directe entre le nord et le sud et surtout des sommets historiques qui s'annoncent. Ce vendredi, entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et son homologue sud-coréen Moon Jae-in, en attendant un autre éventuel tête-à-tête, alors historique, Kim Jong-un, Donald Trump, début juin. Frédéric Ojardias, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de RFI et France Inter à Séoul. Vous avez rencontré un artiste nord-coréen, réfugié au sud, pour lui demander comment il voyait cette détente surprenante après tant d'années de tensions.
Oui, ce peintre se fait appeler Sun Woo, ce qui signifie « sans frontières ». C'est un pseudonyme qu'il s'est choisi pour protéger sa famille qui vit toujours en Corée du Nord. Au nord, Sun Woo peignait des toiles de propagande pour l'armée. Puis, parce qu'il avait faim, il s'est enfui, il a trouvé refuge au sud. C'était en 2002. Aujourd'hui, il voit d'un bon œil la détente en cours.
Il faut attendre de voir si la situation va vraiment s'améliorer, mais ces sommets sont un bon signe. Donald Trump et Kim Jong-un, on dirait les mêmes. Je pense qu'ils peuvent bien s'entendre. Ces rencontres sont bienvenues, j'espère qu'elles vont bien se passer. J'espère aussi que grâce à ces pourparlers, la Corée du Nord ouvrira ses frontières pour que je puisse aller voir mes parents et mes proches au Nord.
Que pensez-vous de ces deux récents concerts d'artistes sud-coréens donnés à Pyongyang ?
C'est une excellente chose, évidemment. C'est ce dont nous avons besoin depuis longtemps. Je me souviens de l'ancienne présidente sud-coréenne qui avait déclaré « La réunification, ce sera le jackpot ». Cela m'avait vraiment mis en colère parce qu'on ne se connaissait pas entre Nord et Sud-Coréen. Alors comment peut-on parler de réunification ? Avant de pouvoir se réunifier, il faut se connaître, échanger, avoir des contacts. La réunification n'arrivera pas à travers des pourparlers, elle se réalisera à travers des échanges. C'est pourquoi les mouvements actuels entre Nord et Sud sont les bienvenus. Moi, je ne peux pas me rendre à Pyongyang avec les autres artistes, mais j'aimerais vraiment, bien sûr.
Sun Woo peint des toiles provocatrices qui mélangent éléments de propagande nord-coréenne et imagerie capitaliste ou religieuse. Dans son atelier caché au pied d'une colline à Séoul, on trouve par exemple un Kim Jong-un représenté en Jésus ou son père Kim Jong-il portant des vêtements de marque occidentale ou buvant du Coca-Cola. Son style parodie l'art officiel nord-coréen et ses peintures sont un véritable crime de lèse-majesté parce que pour un nord-coréen, les images des dirigeants suprêmes sont sacrées et seuls quelques artistes sont autorisés à en produire.
Au Nord, je n'existais pas en tant qu'individu. Je n'existais que pour Kim Il-sung et Kim Jong-il. Une fois arrivé au Sud, j'ai essayé de me dessiner moi-même, mais je n'arrivais pas à dessiner autre chose que les Kim. Ils étaient tous ce que je connaissais. Au début, j'avais même peur de les peindre. Au nord, j'idolâtrais la famille Kim comme des dieux. J'aurais donné ma vie pour eux. Une fois au sud, parler de moi-même à travers les Kim était terrifiant. Il m'a fallu beaucoup de courage.
Frédéric Jardias, comment le travail de cet artiste venu du Nord est-il perçu par les Sud-Coréens ?
Ses peintures sont souvent drôles, ironiques. Sun Moo détourne les slogans et la propagande du régime. Mais ce travail satirique est souvent mal compris en Corée du Sud, car ici, il est illégal de brandir un drapeau de l'ennemi nord-coréen ou de diffuser des images faisant l'apologie de Pyongyang.
Au début, mes toiles provoquaient l'hostilité parmi les Sud-Coréens. Après 70 ans de tension entre Nord et Sud, c'est une réaction naturelle quand on voit des images nord-coréennes. Certains se mettaient en colère, d'autres me dénonçaient à la police. On a même enquêté sur moi. Aujourd'hui encore, mon travail continue de susciter du rejet. Ce n'est pas un problème facile à résoudre. Cela pourrait s'arranger si de véritables échanges entre Nord et Sud avaient lieu. Mais dans le contexte actuel, c'est un peu compliqué de suspendre une de mes toiles sur un mur de sa maison.
Sun Moo estime que les deux Corées ne parviendront pas seules à résoudre leurs problèmes. Elles sont en effet prises dans un grand affrontement diplomatique et stratégique qui implique leurs puissants alliés, les États-Unis et la Chine.
Les tensions entre Nord et Sud sont trop fortes. Mais le problème n'est pas seulement entre les deux Corées, c'est un problème international. D'autres pays sont impliqués. Je pense que les relations entre Nord et Sud s'amélioreraient si de nombreuses autres nations, y compris la France, faisaient des efforts communs. J'aimerais que la France joue un rôle d'intermédiaire entre les deux Corées. J'espère aussi qu'un jour de nombreux Français viendront passer leurs vacances en Corée du Nord.
Et en attendant ce jour hypothétique où la Corée du Nord sera une grande destination touristique, Sun Moo suivra de près le sommet vendredi entre les dirigeants nordistes et sudistes, le premier depuis 11 ans, une rencontre historique qui devrait lui inspirer de nouveaux sujets de toile.
Frédéric Ojardias à Séoul en Corée du Sud. Nous reviendrons longuement sur cette détente dans la péninsule coréenne mercredi dans Un jour dans le monde. Faut-il être méfiant après l'annonce par la Corée du Nord de la fin des essais nucléaires et des tests de missiles intercontinentaux? On en parlera après-demain. Les musiques qu'on aime sur France Inter, révélation musicale de ces derniers mois, le groupe Super Organism. 8 musiciens venus d'Angleterre, du Japon, d'Australie ou encore de Nouvelle-Zélande. Voici Reflection on the Screen.
It was never jealousy, just a cute hyperbole, idiocracy, a dream. And he's still keen to chill with me. I've zoomed in 1080p. Your pseudo smile is so
Super Organism Reflection on the Screen.
France Inter, le 18-20.
Et voici Claude Guibal, l'édito Diplo. Vous nous parlez, Claude, d'un jeune homme égyptien. Il est photoreporter. Il s'appelle Shawkan. Depuis bientôt 5 ans, il est en prison dans son pays, accusé de terrorisme. Il risque la peine de mort. Tout cela pour avoir fait son métier, faire des photos lors d'une manifestation. Et ce matin, l'UNESCO a annoncé que ce serait lui le lauréat 2018 du prix mondial de la liberté de la presse de l'UNESCO. Le pouvoir égyptien, Claude Guibal, du maréchal Sissi, est évidemment très mécontent.
Oui, c'est rien de le dire, Pierre. Du côté du Caire, on s'est clairement étranglé lorsque l'UNESCO a fait part de sa décision d'accorder ce prix prestigieux à Shawkan, de son vrai nom Mahmoud Abou Zeid. Le ministère égyptien des Affaires étrangères vient d'exprimer son profond regret, vous allez le comprendre, c'est un euphémisme. Car écoutez plutôt l'histoire de Shawkan. Petit retour en arrière, nous sommes le 14 août 2013 et ce jour-là, des milliers de personnes sont rassemblées en sit-in sur la place Rabia al-Adawiya, c'est au Caire. Ce sont des supporters de Mohamed Morsi, ce frère musulman qui a été élu président 1 an après la révolution égyptienne et qui vient alors d'être démis par l'armée sous la pression populaire savamment entretenue par les services de sécurité du pays. Alors à ce moment-là, donc, Mohamed Morsi est en prison, ses partisans crient au coup d'État, au déni de démocratie, et depuis 6 semaines, ils occupent cette place et les autorités égyptiennes lancent un ultimatum pour l'évacuer le 14 août.
Et ce jour-là, Claude Shawkan est présent.
Oui. Le jeune photographe est là lorsque les snipers sur les toits commencent à tirer indistinctement dans la foule. Il est là lorsqu'au sol, les bulldozers foncent dans les manifestants. Il est là lorsque cette évacuation décidée par le général Al-Sissi tourne donc au massacre. Selon le décompte effectué par l'ONG Human Rights Watch, ce jour-là, plus de 800 personnes, probablement plus d'ailleurs, sont mortes. Sur la place, les forces de sécurité maltraitent les journalistes. Certains sont arrêtés, dont Shawkan, en compagnie d'un Américain et d'un Français. Alors, eux vont être relâchés, mais pas Shawkan, qui est égyptien.
De quoi est-il accusé ?
En fait, il y a des dizaines de charges qui pèsent sur lui. Meurtre, appartenance à un groupe interdit, donc les frères musulmans. Pour les autorités égyptiennes, tous ceux présents ce jour-là sont suspectés de terrorisme ou d'avoir soutenu des frères musulmans. Et ça vaut pour les journalistes. Et voilà donc comment Shawkan s'est retrouvé en prison. Aujourd'hui, il est jugé avec 738 autres personnes dans un procès collectif devant une cour militaire. Et en mars, le parquet a requis contre lui et une centaine d'autres la peine de mort par pendaison. Alors, il y a une immense campagne de soutien en ce moment, notamment lancé par Reporters sans frontières, qui a lieu sur les réseaux sociaux. Et ce prix de l'UNESCO vient mettre en lumière son calvaire.
Et évidemment, Claude Guibal, ce prix, c'est un véritable camouflet pour l'Égypte.
Oui, parce que l'UNESCO, vous voyez Pierre, ça compte beaucoup pour l'Égypte. Le Caire a d'ailleurs tout fait pour mettre la main sur la direction de cette institution lors du changement de direction l'an dernier. Le Caire ne voulait surtout pas que ce soit le Qatar qui gagne. Le Qatar, son ennemi juré, parce que l'Égypte l'accuse d'être le principal soutien des frères musulmans. C'est d'ailleurs comme ça que c'est la France qui a pu faire émerger sa candidature et donc faire emporter la Française Audrey Azoulay. Mais ça, l'Égypte, elle ne s'en remet pas parce qu'avec tous ces monuments classés au patrimoine mondial de l'humanité, eh bien, l'Égypte estime que cette direction de l'UNESCO, eh bien, elle lui revenait de droit. Or, en médiatisant ainsi le sort de Shawkan, l'UNESCO vient tout bonnement de rappeler à l'Égypte que la culture, voyez-vous Pierre, ce n'est pas qu'une question de pierre ancienne et de patrimoine splendide. L'UNESCO rappelle que la culture, c'est une arme qui sert aussi à alerter contre la répression, les dérives autocratiques. L'UNESCO rappelle que la culture, elle est indissociable des droits de l'homme, de la liberté de la presse et de la démocratie.
Claude Guibal sur France Inter dans Un jour dans le monde. À demain, Claude.